La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Et au menu de notre club en ce vendredi 14 décembre, le vertige des fake news et des faits alternatifs, une exposition sur l'évolution et une fabuleuse histoire des inventions. Mes invités sont en place et je vous les présente bien sûr dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Une bonne surprise aujourd'hui à la Une de la Science au sujet de la grande barrière de corail.
Oui, après le blanchiment catastrophique de 2016 et malgré des prévisions alarmistes, certains récifs tiennent le coup face au réchauffement. On vous explique pourquoi dans un instant.
Et c'est suffisamment rare pour qu'on en parle effectivement à la Une dans un instant. Fanny Boyon réalise ce club de la tête au carré qui a été préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagnier avec Irène Menahem.
La tête au carré, le club. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités, le sociologue Arnaud Esquéré, le biologiste Jean-Baptiste Le Panafieux et l'historien des sciences Denis Gutleben. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Et bonjour à Sophie Becherel, bien sûr, qui nous accompagne comme tous les vendredis. Arnaud Esquéré, vous publiez chez Textuel un petit livre sur le vertige des faits alternatifs. Et c'est vrai qu'au pays des fake news et des théories du complot, il n'y a qu'à se pencher aujourd'hui pour trouver des exemples. La notion de vérité a pris du plomb dans l'aile ces derniers temps.
Elle a pris du plomb dans l'aile depuis un moment, mais c'est pour ça qu'il faut la défendre.
Et c'est le thème de votre livre, avec pas mal d'exemples d'ailleurs qui puisent dans les États-Unis principalement, en tout cas.
Oui, parce que ce qui a été mis sur le devant de la scène par Donald Trump avec la fake news et les faits alternatifs ont donné en fait un écho à ces notions de manière tellement importante qu'on est obligé de se confronter à ça davantage sans doute qu'auparavant.
Et on verra de quelle façon ça peut aussi évidemment fragiliser la démocratie. Sophie Becherel, quel est votre coup de cœur cette semaine, Sophie ?
Eh bien, c'est l'exposition Évolution au musée départemental de la préhistoire de Nemours, un très beau musée où Jean-Baptiste de Panafieux a donc superviser, on va dire, l'exposition Évolution, et en fait, Évolution que vous abordez au travers de photographies de squelettes animaux.
Oui, c'est un des modèles animaux les plus intéressants sur l'évolution.
Donc, des photographies d'un photographe, vous qui êtes auteur, réalisateur scientifique avec une solide formation scientifique, et puis un éditeur. Voilà, des squelettes exceptionnels, on va dire.
Oui, le photographe Patrick Gris, c'est un très bon photographe d'objets. Enfin là, les objets étaient assez immobiles, malgré les photos qui donnent l'impression qu'ils sont en mouvement.
Oui.
Et Xavier Barral est un éditeur de livres d'art, mais qui est passionné par l'architecture des squelettes et par les sciences.
Ouais, on va en discuter donc dans un instant avec cette exposition à voir à Nemours. Et puis enfin, Denis Gutleben, vous publiez, vous, chez Duno, la fabuleuse histoire des inventions, depuis la maîtrise du feu jusqu'à l'immortalité. Et c'est fascinant de voir finalement tout ce qui est sorti de l'imagination des êtres humains. Ces inventions, finalement, c'est toute l'histoire des sociétés aussi qui s'écrit. Hein.
C'est toute l'histoire des sociétés, en effet, parce qu'on voit que ces inventions, elles s'emboîtent un peu comme des poupées gigognes. Certaines préfigurent les suivantes. Et en parcourant toutes ces millénaires, même ces millions d'années d'histoire, en effet, on arrive jusqu'à nous et on voit s'emboîter cette histoire et se dérouler notre histoire, en effet, au travers de ces inventions.
Eh bien, on en parle dans quelques minutes avec pas mal d'exemples et bien sûr les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. Axel, aujourd'hui à la Une de la Science, une lueur d'espoir pour la grande barrière de corail qui se bat contre le réchauffement climatique.
Oui Mathieu, après une année 2016 catastrophique où 30% des récifs de la grande barrière avaient souffert de blanchiment mortel, les scientifiques s'attendaient à une année encore plus chaude pour 2017 et donc à encore plus de morts, mais le pire n'est pas venu. Une étude parue dans la revue Nature Climate Change cette semaine nous explique comment la mémoire écologique de certains récifs leur a permis de tenir bon. Pour en parler, nous partons à l'autre bout du monde, retrouver Mathieu Mongin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biogéochimiste pour le CSIRO, c'est l'organisme gouvernemental de recherche australien. Vous n'avez pas participé à l'étude, mais vous connaissez un peu les auteurs. Comment est-ce que vous avez accueilli ces résultats déjà ?
Alors, nous avons accueilli ces résultats, je veux dire, avec on était passionnés parce que c'est pour une première fois pour nous, cette succession de blanchiments est une mine de données. Alors, c'était pas une surprise pour nous les scientifiques parce qu'on s'attendait un petit peu à ce que l'évolution avec la Grande Barrière évolue et se batte, mais c'est une bonne nouvelle en tout cas pour elle, mais oui.
En termes de chaleur et de réchauffement, vous attendiez une année 2017 plutôt chaude quand même.
Alors oui, il a fait même plus chaud en 2017 qu'en 2016, donc on s'attendait avec les outils qu'on utilise pour calibrer, si tu veux, pour voir quand ça allait se faire, on attendait ce qu'il se blanchisse plus. Mais il s'avère que la Grande Barrière nous a surprise, parce qu'on a eu moins de blanchiment que ce qu'on attendait. En fait, il faut qu'on adapte nos outils, nos métriques, pour essayer de prévoir ce qui va se passer dans le futur. Elle nous a surpris.
Alors, quelle proportion des récifs ont montré ces signes de résistance au blanchiment? Est-ce qu'on a des chiffres à donner?
Alors, on a des chiffres à donner avec lesquels il faut faire attention parce qu'on n'a pas mesuré partout. On rappelle qu'elle est quand même grande, que la Grande Barrière. Mais en gros, il y a 20% des récifs. On s'attendait à un fort blanchiment. Ils ont moins blanchi que ce qu'on prévoyait.
Et est-ce qu'on comprend les mécanismes au niveau de l'organisme qui ont permis à ces coraux de mieux supporter la chaleur?
Alors oui, on a une petite compréhension au niveau de ce qui se passe au niveau écologique. C'est-à-dire qu'on se rappelle que le blanchiment, c'est ces petites zooxanthellites, ces petites algues qui vivent dans les coraux et qui sont expulsées quand il fait chaud parce qu'elles produisent des éléments qui sont nocifs pour les coraux quand elles sont quand il fait trop chaud. Et donc quand elles s'en vont, l'année d'après ou durant l'hiver, d'autres petites algues peuvent revenir. Elles sont un peu plus tolérantes à des fortes chaleurs. Et dans ce cas-là, les coraux peuvent, si la chaleur augmente, moins avoir de blanchiment. Mais la contrepartie de ce problème, c'est que ces algues sont un petit peu moins efficaces à produire de l'énergie pour les coraux.
Alors, mais pourquoi on n'avait pas anticipé pleinement ce mécanisme de changement de locataire, alors?
Ah, ce changement de locataire, on l'avait anticipé sur les IGL, sur les théories écologiques, mais on ne l'avait jamais mesuré ou observé en réel, surtout sur des temps assez courts. On parle ici d'une année sur l'autre. En général, ces choses-là prennent des années. Et on l'a mesuré pour une fois. C'est pour ça que l'étude a un impact et est publiée dans un journal comme Nature Climate Change.
Mathieu Mongin, Axel parlait il y a un instant de la mémoire écologique de certains récifs. Ça veut dire quoi, la mémoire, justement? Comment il faut le prendre, dans quel sens, en tout cas, il faut l'interpréter?
Alors, quand on parle de mémoire, en fait, c'est tout simplement la diversité biologique de ces petites algues, en fait. C'est ça, la mémoire. C'est pas les coraux qui ont une mémoire, c'est qu'il y a une diversité d'algues dans l'océan. Et donc, les coraux vont prendre l'algue qui est la plus pratique pour eux, pour les conditions. Donc la mémoire, en fait, elle est dans les algues, pas franchement les coraux, mais plus dans la diversité de la Grande Barrière, en fait.
Alors le problème, Mathieu Mongin, c'est que le réchauffement climatique n'est pas la seule menace qui pèse sur les coraux aujourd'hui. Il y a les cyclones, il y a la pollution. Est-ce qu'il va y avoir assez d'algues pour résister à toutes ces menaces?
Eh bien, c'est bien le problème, en fait. C'est comme cette Grande Barrière nous surprend. On a un petit peu de mal maintenant avec tous ces épisodes qui arrivent les uns à la suite des autres. On a un petit peu de mal à comprendre ce qui va se passer. Ça va être compliqué pour la Grande Barrière si les cyclones, si des éléments de pollution au niveau des rivières continuent à augmenter. Ça va commencer à être très très difficile pour les petits coraux.
Oui, parce qu'on l'a pas dit, vous travaillez à modéliser cette Grande Barrière de corail à Hobart, en Tasmanie. Votre travail, c'est de prendre toutes ces données et d'essayer de faire un modèle qui permette d'anticiper les coups durs, c'est ça, hein?
Alors, qui permet d'anticiper les coups durs, mais aussi de donner aux gens qui font du politique, tout simplement, de voir un petit peu une vision à l'ensemble de la Grande Barrière, pas juste à des endroits ici, et de tout englober dans un modèle numérique qui nous permet de faire à la fois le blanchiment, à la fois les problèmes de qualité de l'eau, à la fois les problèmes des cyclones, la circulation générale de l'eau et l'écosystème.
Sophie Bécherel avait une question.
Oui,
à vous poser.
Dans quelle mesure la pollution humaine, si on la contrôlait mieux, et notamment en Australie, pourrait-elle aider à la survie de ces coraux?
Alors c'est la question, c'est l'une des seules choses à laquelle on peut, nous, à l'échelle de l'Australie, mais aussi à l'échelle humaine, à l'échelle qu'on peut améliorer aujourd'hui. Quand on parle de pollution, c'est plutôt les problèmes d'agriculture et de fertilisation des champs au nord de l'Australie. Et donc en fait ça, c'est quelque chose qu'on peut régler aujourd'hui clairement facilement. Non, c'était pas facile, mais c'est quelque chose sur lequel on peut agir rapidement et on sait comment faire.
Le gouvernement, le gouvernement a pris des dispositions quand même concernant l'agriculture.
Oui, oui, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est un des grands projets sur lesquels je suis impliqué. Le projet de recherche, c'est quelque chose dont on travaille depuis des années, hein, parce que ça coûte quand même. On parle ici de grosses sommes d'argent, notamment pour les agriculteurs et pour l'économie en général. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de manager à l'échelle de l'Australie, mais c'est pas facile parce que c'est un grand territoire et qu'on n'a pas tous les éléments en main non plus pour faire des prédictions parfaites.
Et parmi les choses difficiles à prédire, il y a aussi dans votre actualité, là, ces jours-ci, un phénomène assez bizarre, c'est le cyclone Owen qui, pour la barrière de corail, lui aussi, on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
On ne sait pas trop à quoi s'attendre parce que Owen est un cyclone, ce qu'on appelle ici fantôme. Donc c'est un cyclone, en général les cyclones viennent de la mer, donc ils traversent depuis la mer de corail et ils arrivent sur la Grande Barrière et en Australie et ils font leur petit cyclone. Mais celui-ci, en fait, il n'était pas très fort, il est passé la semaine dernière, il est déjà passé et il a été dans le golfe de Carpentria qui est au nord de l'Australie. Il était à moitié mort et il a rené de ses cendres, c'est pour ça qu'on l'appelle un cyclone fantôme. Et il va revenir, donc il va revenir depuis la Terre en fait. Et alors ce qui est intéressant quand un cyclone revient depuis la Terre, c'est qu'il ne va pas avoir de vagues, parce qu'il était au-dessus de la Terre. Donc il va avoir un impact, plus produire beaucoup de pluie et beaucoup de nuages, qui pourrait avoir un effet bénéfique pour le réchauffement et pour le blanchiment des coraux, puisqu'il va nous mettre des nuages et de l'eau un petit peu plus fraîche, ce qui va refroidir la température de l'océan. Donc on ne sait pas, ce sont encore des hypothèses qu'on a, mais c'est quelque chose qui est assez rare, et donc on attend avec impatience les résultats et de voir ce qu'on veut faire.
Quelle heure il est en ce moment en Tasmanie, là, Mathieu Mongin ?
Il est minuit et quart en Tasmanie.
Il est minuit et quart. Et alors quand il fait jour, qu'est-ce que vous voyez autour de vous ? À quoi ça ressemble le paysage là ? Vous avez la vue sur quoi ?
Alors on a vu sur le mont Wellington à Hobart, qui est une montagne qui est à 1200 mètres d'altitude. Donc Hobart est une ville assez, donc il y a une grande rivière. Il y a surtout cette magnifique montagne qui nous domine un petit peu comme Cape Town en Afrique du Sud, comme je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, c'est le même genre de montagne. On voit cette montagne, on voit. C'est l'été, c'est le printemps, donc les arbres sont verts, il fait beau et chaud.
Bon, bah écoutez, on vous envie beaucoup en tout cas. Passez une bonne nuit alors, et puis merci beaucoup pour votre décryptage. Merci infiniment. Et puis Axel, on se retrouve lundi, bien
à
sûr,
lundi,
pour
Mathieu.
Une nouvelle une. Et dans un instant, c'est le club de la tête au carré. Pete Asayon, c'était Bad Boy à l'instant.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Allez, dans le club cet après-midi, on parle de fake news et de faits alternatifs. On va visiter une exposition sur l'évolution et découvrir une fabuleuse histoire des inventions avec mes invités, donc le sociologue Arnaud Esquéré, le biologiste Jean-Baptiste de Panafieux, l'historien des sciences Denis Gutleben et bien sûr Sophie Bécherel avec nous comme tous les vendredis. Et vous nous rejoignez avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Arnaud Esquéré, on commence avec vous et ce petit texte que vous publiez intitulé Le vertige des faits alternatifs, c'est en réalité une conversation que vous avez avec l'anthropologue Régis Méran et qui paraît chez Textuel. Alors vous êtes sociologue, chercheur au CNRS et membre de l'IRIS, c'est l'Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux à l'EHESS. Comment est née au départ l'idée de cette conversation justement avec Régis Méran?
Eh bien, Régis avait l'idée de s'interroger sur la question des fake news et des faits alternatifs, sujet d'actualité s'il en est et qu'on trouve sans arrêt dans les médias, à partir en fait de travaux que j'avais fait qui portaient sur toute autre chose, qui portaient sur notamment les prédictions astrologiques ou sur les récits d'événements extraterrestres.
Alors on en avait parlé à ce micro.
Dont on avait parlé ici. Et avec cette idée qui était, c'est pas parce que c'est faux en fait que ça n'a pas un certain succès. Et donc le point de départ était de se dire, mais si c'est faux, pourquoi est-ce que malgré tout on continue à propager, à faire circuler des énoncés faux? Pourquoi est-ce que même si à quelqu'un va voir un astrologue alors qu'il sait que ça peut être faux, il continue à y aller, que les prédictions ne sont pas réalisées, il continue à y aller. Donc c'était en fait le point de départ de la réflexion était autour de ça, c'est-à-dire est-ce que au fond les énoncés qui circulent, dont on sait qu'ils sont faux, est-ce que cette question doit se poser en termes de vérité ou pas? Qu'est-ce que ça implique, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que ça a du succès alors que c'est faux?
Voilà. Alors, le point de départ justement de cette discussion, c'est cette séquence inaugurale de Donald Trump à Washington en janvier 2017, avec une réécriture de l'histoire, et justement ce terme « faits alternatifs » qui a fait son entrée fracassante justement dans les médias à ce moment-là. C'est quand même fou ce que Trump inspire les chercheurs aujourd'hui. C'est un vrai sujet de recherche quand même.
Il a introduit une rupture très grande dans la manière dont il fait, on va dire, travailler ou jouer la démocratie. Donc je pense aussi qu'en fait, la question politique qu'il nous pose est inédite, en tout cas par l'ampleur dans la manière dont il le fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'il nous stupéfie et qu'on le prend comme sujet de recherche. Parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui, si vous voulez, le fait que des gouvernements construisent la réalité, on peut dire, pour le faire simple, ou donnent leur version, donnent leur version, si vous voulez, des faits. Ce n'est pas une nouveauté, en quelque sorte. Mais Trump, en fait, il le fait d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'au fond, il a pris acte du fait que dans un univers, en tout cas un univers démocrate, d'un État démocratique, c'est-à-dire où il y a une grande circulation de l'information, de multiples informations, en tout cas de multiples énoncés qu'on peut vérifier par Internet, en fait, ou en tout cas alimenter par Internet différentes versions. Il a pris acte du fait que on ne pouvait pas par le gouvernement imposer, si vous voulez, uniquement une version des faits, comme ça pouvait se faire auparavant. Il faut se souvenir que jusque dans les années 80, l'information, y compris en France par exemple, avec la télévision publique ou la radio publique, était extrêmement contrôlée parce que c'était d'État. Et si je prends par exemple l'exemple du cinéma, on avait une censure en fait qui était extrêmement forte et qui avait quand même des visées politiques d'abord. Or, dans l'univers dans lequel on est, ça n'est pas contrôlable. Et l'autre dimension de Trump, ça je pense qui est très propre à lui, à son parcours, c'est au fond le fait qu'il sait attirer l'attention. C'est-à-dire, il prend le parti de l'attention. C'est quelqu'un qui a fait de la télé,
fait, qui a été. C'est la télé-réalité.
C'est de la télé-réalité.
Pas la sauce politique. Hein.
Et il sait que ce qui compte, c'est attirer au maximum l'attention sans se soucier de la vérité.
Ouais, en fait. Ni de la forme d'ailleurs, parce que lui, c'est un canal de communication quasiment unique avec Twitter, Donald Trump. C'est-à-dire que la pensée est très courte au fond.
Bah, au contraire, il se soucie de la forme, c'est-à-dire au fond, il utilise un canal qui est un canal, on va dire aussi là encore une fois inédit, même si par exemple on peut retrouver des présidents qui par exemple parlaient à la radio, il y avait des causeries à la radio, donc il faut aussi réinscrire dans une histoire. Simplement là, c'est très direct et il y a une sorte d'efficacité dans l'attention qu'il arrive à capter chez ceux qui le lisent.
Ouais. Denis Gutleben, Twitter, justement, ça fait partie des inventions dont vous parlez dans votre ouvrage.
Voilà. Une invention récente qui a un grand succès, justement, outre-Atlantique, mais chez nous aussi.
Oui. Énorme succès, évidemment. Ouais. Est-ce que, justement, Arnaud Esquéré, aujourd'hui, le discrédit des médias a permis, précisément, à ces fake news de se développer aussi rapidement sur les réseaux sociaux?
Je pense que la question se pose un petit peu différemment parce que en réalité, d'abord, c'est pas parce qu'il y a des énoncés faux que vous adhérez aux énoncés. Ils peuvent être faux et extrêmement excitants, et pour autant, est-ce que les gens y croient, n'y croient pas? Ça, en fait, c'est extrêmement compliqué comme question. Et d'autant que par ailleurs, on n'est pas dans un état de croyance stable. C'est-à-dire que souvent, on croit quelque chose un peu, puis on discute, on y croit moins, puis après on change d'avis. Donc cette dimension-là n'est jamais prise en compte quand on s'alarme, si vous voulez, des fake news. L'autre élément, c'est que au fond, si vous voulez, ce par rapport à quoi il faut réfléchir, c'est que malgré tout, les médias traditionnels sont des médias dans lesquels très souvent, l'information est vérifiée, et ce qui est très frappant, c'est que ces dernières années, un certain nombre d'entre eux, pour les grands médias en tout cas, font justement livrent des vérifications, en tout cas, ou des petites rubriques, si vous voulez, des décodeurs, ou ce genre d'informations. Et donc, ce travail de vérification sert de point d'appui, si vous voulez, pour comparer par rapport à des informations dont on va dire qu'elles sont fausses. Donc, il faut sans doute probablement raisonner par rapport à cette capacité de recouper l'information qui, elle, en réalité, s'est développée, parce qu'on a plus de moyens, en fait, de comparer ou de vérifier ou de recouper l'information.
Jean-Baptiste de Panassieux, dans le domaine de l'évolution, il y a les sacrées fake news quand même. Le créationnisme, c'est aussi une fake news, on pourrait le dire presque comme ça, non?
Si on raccourcit... On peut le dire comme ça, et chaque fois que je suis allé dans des classes et où j'ai été confronté à des jeunes qui parlaient de créationnisme, c'était sous l'angle des faits alternatifs et du complot. C'était ça aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un complot pour faire croire qu'il y avait des fossiles dans la roche, et les fossiles, c'est des inventions soit des profs, soit des journalistes, ils sont pas forcément d'accord entre eux, mais c'est une invention. Et pour l'enseignante que j'avais vue, une des dernières que j'ai vues qui était confrontée à ça, c'était au collège avec des jeunes collégiens, elle les a emmenés au bord de la mer voir une falaise dans laquelle il y avait plein de fossiles. Alors, je sais pas si la confrontation à la réalité joue dans ce cas-là.
Ouais. Arnaud Esquéré.
Elle peut jouer simplement par rapport à la question de la science. Tout le problème, c'est que d'un côté, il faut défendre la vérité, que ça la vérité scientifique, la vérité historique, etc. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on a appelé la critique relativiste, c'est-à-dire le fait de comparer pour faire apparaître le fait que en fait des vérités, ce qu'on tenait pour vrai en fait était ne l'était pas, et qu'on fait apparaître en fait qu'il y a eu des changements de paradigme dans la science.
Mais c'est la nature de la science. Hein.
Bien sûr, c'est la nature de la science. Mais donc, ce que je veux souligner, c'est que il y a une tension toujours entre d'un côté l'idée de vérité universelle, et de l'autre côté la critique relativiste qui a sans arrêt permis de faire progresser la science. Donc le problème, c'est quel est le point d'arrêt en fait de la comparaison de la critique relativiste par rapport à ça.
Mais vous dites quand même que les scientifiques, par exemple, les journalistes, les juges ont un rôle à jouer, justement, dans l'énoncé de la vérité aujourd'hui.
Oui, ils ont un rôle à jouer parce que...
Ou les profs, d'ailleurs. Hein.
Alors, tout le monde a un rôle à jouer, mais eux, ils ont un rôle à jouer. Enfin, le rôle qu'ils ont à jouer, c'est parce que, en fait, dans leur métier ou dans leur profession, il y a un travail d'enquêteur, tout simplement, à faire, et que ce travail d'enquête, il est indispensable. Et c'est ça, en fait, qui permet de faire émerger la vérité. On ne peut pas le retirer. Enfin, en tout cas, la question de l'enquête scientifique, de l'enquête judiciaire, de l'enquête journalistique est absolument centrale par rapport à ce progrès de la connaissance.
Jean-Baptiste de Panafieux.
Il y a quand même une différence pour moi entre le relativisme des interprétations de faits de nature, de comment on comprend les choses, et puis sur l'existence des éléments eux-mêmes, l'existence des fossiles. Et là, dans ce à quoi j'ai été confronté, c'était des jeunes qui refusaient même, j'en ai vu, qui pensaient que Lucie était une invention de journaliste. C'est-à-dire que bon, alors Lucie,
l'Australopithèque,
l'Australopithèque. Ouais, oui, je parle de l'Australopithèque, oui. Bien entendu. Et que c'était une invention. Et donc il y a un moment où même l'existence de l'objet sur lequel on va parler, sur lequel il va y avoir des théories différentes, cet objet lui-même est remis en cause.
Oui, mais c'est pour ça que la question du point d'arrêt est centrale, c'est-à-dire jusqu'où vous arrêtez jusqu'où vous allez dans la critique relativiste et comment vous l'arrêtez. Et effectivement, la question de la preuve et la question de l'enquête sont déterminants dans cette affaire.
Sophie Bécherel,
pour
terminer.
Dans quelle mesure la notoriété de celui qui est le premier donne une fake news ou bien la transmet joue pour que ça se démultiplie, qu'il y ait un effet de démultiplicateur.
C'est le cas de Donald Trump d'ailleurs, c'est l'exemple aussi que vous citez.
Récemment, un basketteur comme étant un amplificateur. Non, l'homme n'est pas allé sur la Lune au point que la NASA lui a dit venez, on va vous montrer les cailloux lunaires.
La question de la réputation est centrale dans cette affaire parce que elle déclenche en fait, elle donne une force au récit ou à l'énoncé et donc c'est il y a un rapport de force qui se joue depuis celui qui l'énonce. Donc c'est tout à fait c'est tout à fait déterminant.
Il y a un vrai danger pour la démocratie aujourd'hui, Arnaud Esquéré, avec justement la multiplication de ces faits alternatifs.
En fait, le danger que je vois, si vous voulez, c'est le fait que c'est au fond pour moi, Donald Trump s'inscrit dans un régime qui est celui de la polémique, c'est-à-dire il ne laisse pas la place à l'autre de s'exprimer, qui ait la possibilité d'une opinion de quelqu'un d'autre. Et la démocratie, en tout cas telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui, elle est fondée sur la discussion, c'est-à-dire le fait que un grand nombre de personnes expriment des avis qui sont des avis différents, on discute, et de cette discussion, certains peuvent changer d'avis et une vérité peut émerger. Et donc, le danger, c'est ça en fait, c'est cette remise en cause de la nature de la discussion ou de l'éducation à la discussion, ce que on peut retrouver d'ailleurs. Et au fond, je pense que la meilleure moyen de lutter contre ce qu'on appelle les fake news, y compris pour des enfants, c'est de les apprendre à discuter et non pas à polémiquer.
En tout cas, voilà un sujet de réflexion justement autour de ce thème des fake news, des faits alternatifs, des théories du complot. C'est cette conversation avec Régis Méran que vous publiez donc chez Textuel, Le vertige des faits alternatifs. Arnaud Esquerivo, restez avec nous, on parle justement évolution avec une expo à voir à Nemours en ce moment. fantôme de Liminiana sur France Inter.
Le club sur France Inter.
Sophie Bécherel.
Oui,
on part où ce week-end ?
Au musée départemental de la préhistoire de Nemours.
Très bien.
Qui est donc en Seine-et-Marne.
Oui, je regarde sur ma carte.
Un très beau musée. Et donc, il y est question d'évolution. Alors, on y voit des photographies de squelettes de Patrick Gris. Des photographies et pas des squelettes. Il faut peut-être commencer par expliquer, Jean-Baptiste de Panafieux, la différence. Parce qu'au fond, on pourrait se dire, tiens, on aurait pu faire une exposition avec les squelettes de tous ces animaux. Et non, ce sont des photographies.
Mais elles sont tellement belles, les photos.
Et très travaillées.
Ouais.
Parce que, justement, il y a une différence.
Oui, le squelette, c'est quelque chose qui nous interpelle parce que c'est très beau quand il est bien préparé. Il est très beau, c'est une architecture qui peut être très fine, qui peut être très gracieuse, qui peut être extrêmement lourde, au contraire, et presque grotesque. Alors ça, c'est très intéressant, mais c'est pas facile à lire. Et la photo, c'est aussi une aide à la lecture du squelette pour en faire ressortir certains éléments plutôt que d'autres, de manière à ce qu'on puisse comprendre le squelette comme on lit un texte.
Donc là, on a enlevé, par exemple, tous les supports du squelette.
Alors, en plus, pour le livre, pour faire tenir un squelette, normalement, il faut des vis, des clous, des fils de fer.
Des trucs moches.
Ça peut être très beau.
Ah oui.
Et on aurait pu faire un livre très beau sur le travail des artisans qui ont monté des squelettes avec des petits bouts de fil de... C'est vraiment très joli. Mais on sort de l'animal et on sort de ce qu'on avait envie de montrer. Et donc, on a débarrassé numériquement tous ces squelettes de toute la ferraille qui leur permettait de tenir.
Donc, je le disais, c'est une association entre ce photographe et vous. Et donc, pour quelle raison vous prenez le squelette comme appui, en fait, ou comme propos pour parler de l'évolution? Qu'est-ce que vous réussissez à montrer que vous n'auriez pas pu montrer autrement?
Alors ça, c'est l'histoire est intéressante parce que au départ, il y a Xavier Barral, l'éditeur, qui avait envie de faire un livre avec des squelettes. Mais il est très intéressé par les sciences, alors qu'il fait surtout des livres d'art et de photos. Et il m'a demandé si on pouvait parler d'évolution. Enfin, moi, je voulais faire un livre sur l'évolution à l'époque. Et il m'a demandé si on pouvait parler d'évolution uniquement avec les squelettes. Ce qui, pour un biologiste, est un pari pas évident. Parce que il y a tous les autres animaux.
Il y a les insectes, les vertébrés. Et là, ils sont plus là.
Bon, alors, les squelettes, ça a un intérêt parce que c'est extrêmement divers. Et on peut raconter énormément de choses uniquement à partir des squelettes. En comparant, vous prenez l'hippopotame et la souris. Évidemment, il y a des trucs à raconter sur les différences d'échelle. Sur la forme de la chauve-souris et de la baleine, ce sont des vertébrés qui ont le même squelette au départ et qui vivent de façon tellement différente qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires à raconter.
Alors, comme c'est présenté dans un musée de la préhistoire, là, il y a eu des choix qui ont été faits. Donc, il y a au départ un grand fond photographique de 500 photographies. Et là, il y en a 50 qui sont présentées. Et donc, vous avez centré sur les proches ou lointains cousins de l'homme. Et pouvez-vous nous dire ce qui nous... rapproche ou nous différencie, par exemple, des singes, l'un de nos plus proches cousins, on va dire, dans un squelette?
Alors, si on regarde... Voilà, ça dépend des singes. Mais si on prend notre plus proche cousin, le chimpanzé, il y a un élément immédiat. Enfin, plusieurs éléments. Il y en a un, c'est que nous n'avons pas de pouce opposable au pied. C'est pourtant très pratique pour grimper aux arbres. Ce serait merveilleux d'avoir des... Mais on grimpe plus beaucoup aux arbres. Et nous avons perdu le pouce opposable qu'avaient nos ancêtres. Il y a plusieurs millions d'années, nous avons perdu ce pouce-là et acquis un orteil parallèle aux autres doigts de pied, qui est beaucoup moins efficace pour grimper, mais plus efficace pour marcher.
Mais ça veut dire que la fonction fait l'usage. C'est-à-dire que nous, si on a perdu notre doigt opposable, c'est parce qu'on grimpe plus aux arbres.
Ah non.
Non.
Oh non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est exactement l'inverse. On a pu se mettre à marcher parce qu'on a perdu notre pouce opposable.
Ah ben c'est ça ce qui se passe dans l'évolution?
Dans l'évolution, il apparaît des nouveaux éléments par hasard. Ça, c'est la théorie de l'évolution actuelle. De nouveaux éléments apparaissent par hasard. Ça peut être des éléments anatomiques. Et l'être vivant s'en sert pour développer de nouvelles possibilités, de nouvelles fonctions. Si c'est vraiment utile... toute nouvelle amélioration de cet élément pourra être conservée et petit à petit aboutir à quelque chose de vraiment efficace.
Ce qui est assez fascinant dans ces images, c'est qu'on voit que tous ces squelettes, que ce soit celui d'un cheval, d'un homme, d'un ornithorynque, il y a quand même une base qui est restée au fond. Et puis des grandes différences. Est-ce que c'est ça que vous voulez mettre en avant, en fait? Dire qu'on vient tous finalement du même point de départ.
Oui, il y a ce double aspect. Les ressemblances et les différences. Et chez les vertébrés, c'est particulièrement évident. Nous avons les mêmes os qu'une baleine ou qu'une chauve-souris. Sauf que les os n'ont pas la même forme exactement, la même taille, mais on retrouve les mêmes os dans une nageoire de baleine, on va retrouver un humérus, un radius, un cubitus et des phalanges, exactement comme dans notre bras, et on peut les voir sur le squelette. Sur l'animal, on verra rien du tout, à l'extérieur. Mais quand on voit le squelette, on voit qu'il a un bras, que la baleine a un bras comme le nôtre.
Cette expo, elle est avant tout artistique ou scientifique, finalement, Jean-Baptiste de Panafieux? Est-ce que d'abord elle est accompagnée de beaucoup de textes, ou est-ce qu'on a l'image brute comme ça et puis finalement on l'interprète comme on a envie?
Non, il y a les images brutes. On entre par l'image, toujours. Mmh. Dans un livre, c'est pareil. Un livre illustré, en tout cas. On entre par l'image. Mais ensuite, il y a des petits textes, réduits, parce que c'est une exposition et ça ne se prête pas de longs textes. Mais chaque texte montre un élément d'évolution qu'on peut découvrir sur la photo.
Vous, je le disais au tout début, vous êtes auteur de livres et puis donc la vulgarisation est au cœur de travail. Vous faites aussi des documentaires. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette approche justement esthétique ou artistique? Est-ce que ça apporte vraiment un plus au message scientifique? C'est une porte d'entrée pour des gens qui n'iraient pas. Qu'est-ce que vous y trouvez?
Oui, moi je crois que c'est vraiment ça. Il faut attirer le public à des questions qui, pour certains, paraissent a priori rébarbatives ou difficiles. Et l'aspect artistique permet d'émerveiller. La nature, c'est merveilleux. Quand on regarde, on est toujours stupéfait de ce qu'on voit. La compréhension de la nature est merveilleuse aussi. Et est une source d'étonnement, il y a plein de choses extraordinaires. Et pour ça, il faut une porte d'entrée. Et de très belles photos, c'est une porte d'entrée. Ouais. Il y a d'autres formes artistiques de porte d'entrée, mais ce lien entre science et art, alors il y a des liens plus profonds encore, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler.
Et je confirme que ces photos sont extrêmement belles. Hein. Ces photos avec des fonds noirs absolument magnifiques, parce que c'est très pur aussi. Hein,
les animaux justement flottent puisqu'on a supprimé
absolument
tout.
Arnaud Esquéré.
Est-ce que ce lien entre science et art par la photographie, en tout cas par le visuel, ne s'inscrit pas dans une histoire qui est celle de l'Atlas, par exemple, ou de dans les atlas scientifiques, finalement, on montrait toute une série de choses qui montrait la science, finalement. Il n'y a pas un lien avec cette...
Alors, je ne sais pas si on montre la science, mais on montre le monde. Les livres scientifiques d'autrefois étaient illustrés, parfois de façon absolument magnifique. Je pense au dessin de Haeckel, des livres de Haeckel, et puis plein d'autres au Moyen-Âge.
Les botanistes, enfin, des choses magnifiques.
Les botanistes ont toujours fait très attention à la façon dont ils représentaient les plantes, tous les biologistes qui ont travaillé sur les animaux marins ont montré les méduses, les coraux, etc. Il y a cet émerveillement qui ressort toujours dans ces livres qui se veulent aussi scientifiques.
Denis Gutleben, je cherchais à voir s'il y avait de la cartographie justement dans vos inventions.
Non, toutes n'y sont malheureusement pas. Il aurait fallu un livre beaucoup plus gros que ça. Mais quand on fait une exposition et justement on mêle science et art, est-ce qu'on est confronté aux mêmes contestations qu'on peut avoir justement face à des thèmes comme l'évolution, justement, et aux mêmes oppositions, aux mêmes débats? Quand vous vous retrouvez devant les photographies, est-ce que vous avez les mêmes discussions et mêmes contestations que vous pouvez avoir ailleurs?
Quand on a présenté l'exposition, oui, j'ai eu un des politiques du département qui était là et qui a commencé à tenir des discours qui étaient des discours créationnistes.
Ah oui?
Ah oui, oui.
Ah, comme quoi.
Il voyait bien qu'il était entouré de gens qui n'allaient pas, mais ça se voyait et ça s'entendait.
On parle d'évolution et aujourd'hui c'est un peu le tout génétique pour expliquer l'évolution. Qu'est-ce que les squelettes ont encore à nous dire sur l'évolution? Est-ce qu'on les étudie encore? Et puis est-ce qu'au fond c'est
laisser
bien...
s'exprimer les squelettes, laisser nous dire des trucs.
Les os.
Il y a un retour maintenant du tout génétique parce que on s'est quand même rendu compte que d'une part le milieu comptait énormément et puis le squelette est le résultat de la génétique et du milieu, c'est le résultat d'une confrontation de l'un à l'autre.
Donnez-nous juste un exemple d'une espèce qui, confrontée à son milieu, a vu son squelette évoluer. Le panda, le quoi, la chauve-souris?
Non, ces exemples, l'exemple du panda est intéressant, mais c'est vraiment l'exemple qui avait été mis en avant par Stephen Gould il y a quelques années, qui saisit sa nourriture, le bambou avec un pouce, mais c'est pas un pouce comme le nôtre, c'est un autre doigt, c'est un doigt supplémentaire qui est apparu. Mais ça, c'est vraiment le mécanisme de l'évolution où, quelque chose chez l'ours, puisque le panda est un ours, c'est un petit os du poignet qui est un peu plus long que chez les autres animaux ou chez nous. Et c'est bien plus pratique pour l'évolution de fabriquer un pouce avec cet os-là. Mais là, je personnifie l'évolution, mais ça marche pas comme ça. C'est les pandas avec des pouces, avec des os un peu plus longs que les autres, peuvent s'en servir comme pouces et sont avantagés pour tenir le bambou qu'ils veulent grignoter tranquillement.
On a jusqu'à quand pour aller voir l'exposition, Sophie, à Nemours?
Les bonnes questions.
Jean-Baptiste de Panafieux, vous le savez, non? Ah ben c'est la journée de la colle aujourd'hui, c'est pas possible. Bon allez, non,
on est mauvais, on va vous dire ça tout de suite.
On va donner l'info dans un instant. De toute façon, c'est à Nemours et c'est en ce moment, si vous êtes dans le coin, pour aller voir justement cette très belle exposition sur ces photos autour de l'évolution, les fabuleuses histoires des inventions. C'est notre dernier sujet, on va se réveiller, c'est promis.
Ça, c'est la vie. 24, 9, 90. Ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit. C'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz-de-marée me secouait de la tête aux pieds. Le long de la voie lactée. Le long de la voie lactée. Soleil de plomb dans la nuit noire. Je me sens comme un lion dans un square. C'est la vie. C'est le traquenard. De l'aube jusqu'au lendemain matin. J'ai alerté tous les pingouins de ma galaxie. Je suis papa. Si on savait tout. De ce qui nous reste à prouver, est-ce qu'on se mouillerait jusqu'au cou? Pour le genre de petite beauté qui vous ligote au pied de son berceau. Va, ma reine, va là où tu veux. Mon amour jamais ne te quittera des yeux. Il y a tant de folie et trop de misère. Tout ce qui a été dit reste à faire. C'est comme ça. Mais pourquoi on laisse tourner le monde à l'envers sans prendre l'air, sans se donner le temps de le retourner à l'endroit où il fait bon vivre pour la fleur du genre humain, celle qui a besoin d'être arrosée. Tous les jours, comme la plus belle des roses de l'amour, comme le plus beau.
Ce qui est dit doit être fait. Jacques Higelin.
C'est l'invention de mon ami Otis. Ça s'appelle le sans-efforceur.
Oui, parce que c'est un nom qu'on a trouvé parce qu'on s'est aperçu que c'est une machine qui permettait de monter, de descendre les joints sans effort.
Oula, ça fait des petits guillis au ventre hein, quand ça s'arrête.
La tête au carré, le club.
Voilà, Astérix, Mission Cléopâtre et ce livre, La fabuleuse histoire des inventions que vous signez, Denis Gutleben, de la maîtrise du feu à l'immortalité. Je sais pas, l'ascenseur n'y est pas, hein, dans
le... Mais sous son vrai nom.
Voilà, monsieur. Et alors, comment il s'appelle, l'ascenseur sous son vrai nom?
Sous son vrai nom, il s'appelle l'ascenseur. L'ascenseur. Et le créateur s'appelle monsieur Otis.
Otis, voilà, comme on l'entendait dans l'extrait il y a un instant. Vous êtes historien des sciences, donc attaché scientifique au comité pour l'histoire du CNRS et donc ce livre chez Dunod. Qu'est-ce qui fait d'abord la différence entre la découverte et l'invention, alors?
La découverte, comme son nom l'indique, c'est de découvrir une loi, une terre pour un explorateur, mais quelque chose d'inconnu. Tandis que l'invention, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas encore pour améliorer le quotidien, les déplacements. C'est vraiment une création humaine. Tandis que la découverte, c'est quelque chose qui préexiste, qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on découvre.
Alors, vous avez choisi évidemment des inventions qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Alors, quand on s'engage dans un tel projet, comment on fait pour sélectionner? Parce qu'il y en a tellement, évidemment. Ah, c'est vertigineux, là aussi. Et votre choix, il a été fait en fonction de quoi, alors?
C'est un chemin de croix. Il faut déjà sortir les inventions qui nous parlent aussi, qui ont une pérennité, qui ont une importance aussi, encore que certaines, on peut relativiser cette importance. Mais il y a le post-it, par exemple. Finalement, est-ce que c'est une invention si capitale dans
l'histoire de l'humanité? Vous voyez, j'en ai plein sur votre livre. Donc,
oui, finalement, c'est capital. C'est pas si inutile. En tout cas, pour la tête au carré, c'est capital. C'est ça. Donc, ça compte. Donc, c'est vraiment un choix aussi un petit peu personnel. Et puis, un choix, faut pas se le cacher, mais ça, c'est le travail d'historien, en fonction des sources qu'on peut réunir pour certaines inventions. Ou d'autres qui nous demeurent complètement méconnus.
C'est ce que vous expliquez au tout début, en tout cas dans les inventions les plus lointaines, c'est toute la difficulté évidemment sur la datation, les circonstances et l'exactitude quand même des propos, parce qu'il y a quand même une marge d'erreur très forte.
C'est vrai pour les inventions les plus lointaines, ça demeure vrai pour les inventions les plus proches de nous, parce qu'il y a toujours aussi des récits idéalisés qui se construisent autour de Facebook, de Twitter et d'autres. Ouais. Et le travail aussi, c'est un petit peu de voir ce qu'il en est réellement, et comment ça s'est passé réellement, ces inventions. Donc c'est parfois même plus difficile encore de tirer un petit peu le vrai du faux des inventions les plus récentes que d'inventions très très lointaines. Je pense par exemple à la pompe à air pour le XVIIe siècle. Il y a eu énormément de débats sur la création des premières pompes à air. Et là, on est parfaitement bien documenté avec des visions différentes qui nous permettent vraiment de retracer cette invention.
Ouais, donc vous êtes enquêteur aussi en tant qu'historien finalement.
Ah mais complètement, c'est même un des charmes de ce travail.
Détective pour aller voir. Ouais. Alors, ça commence aux premiers outils, parce qu'il fallait un point de départ. Il a été facile à choisir ou pas d'ailleurs?
Il a pas été. Enfin, les premiers outils, c'est un petit peu. Il faut bien partir du tout premier. Et puis, en fait, ce qui a été intéressant pour les premiers outils, et ça montre aussi justement que l'histoire des inventions, c'est une histoire qui se réinvente.
Ça évolue aussi.
C'est aussi
de l'évolution.
C'est aussi de l'évolution, pas la même que monsieur de Panafieux, mais c'est
des datations en particulier.
Tout à fait de la datation. Si ce livre était paru, si moi, vous m'aviez invité il y a un peu plus de 3 ans, j'aurais dit, cette histoire des inventions, elle commence il y a 2,6 millions d'années.
C'est ça.
Et en 2015, grande découverte, notamment associant des collègues du CNRS, avec des nouveaux outils sur les rives d'un lac kényan qui ont été datés à 3,3 millions d'années. Ouais. Donc c'est une histoire qui évolue de 700 000 ans en un seul article publié dans la revue Nature.
C'est là aussi qu'on voit d'ailleurs la notion subjective de vérité aussi en science finalement, parce que en fonction des datations, on voit bien que rien n'est inscrit ni fixé et que ça peut changer à tout moment. Donc il faut quand même prendre les choses avec beaucoup de réserve.
Chaque période a un peu sa vérité scientifique.
Arnaud Esquéré.
Non, j'avais une autre question. C'est est-ce que l'invention du droit de la propriété intellectuelle n'a pas modifié le rapport aux inventions en général?
Elle l'a modifié en tout cas beaucoup financièrement, on va dire, parce que justement, à partir du moment où on commence à protéger, comme on dit, une invention, c'est parce qu'on sait qu'elle va ramener de l'argent. Et ça commence vraiment à se développer réellement à partir de la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis tout d'abord, et puis l'année suivante, 1791, c'est en France qu'on met en place un dispositif assez solide de ce côté-là.
Denis Gutleben, justement, est-ce que dans ces marges d'erreur, l'historien se doit d'être raisonnable? Je prends par exemple l'exemple de la maîtrise du feu. Vous choisissez 400 000 ans, finalement, comme date probable, alors que moi, j'ai entendu parler de 800 000 ans, voire 1 million d'années pour les premiers humains. Alors, comment vous avez fait ce choix, vous,
finalement? J'ai été raisonnable en historien, c'est-à-dire que dans le texte lui-même, j'ai dit entre 1 million d'années et 400 000 ans. Comme ça, au moins, je suis à peu près sûr d'avoir juste, jusqu'à ce qu'un collègue découvre des traces qui remontent à 1,5 million d'années. Et dans ce cas-là, on publiera un autre livre. Voilà.
C'est ça, exactement. Et ça fait partie des véritables guerres aussi qui animent les scientifiques sur les datations.
Même pour le feu, il y a une vraie guerre du feu, c'est de savoir alors comment il a été... Parce que quand on parle d'invention du feu, c'est-à-dire que le feu, il préexistait évidemment, mais c'est le moment où l'homme en assure la maîtrise, en effet. Est-ce qu'il a été volé à la nature? C'était un feu préexistant. Est-ce qu'il a été créé? Enfin, il y a tout un ensemble de questions qui se posent et qu'il faut continuer à payer des chercheurs pour qu'ils nous éclairent sur ces questions-là.
Et puis les régions changent aussi selon les découvertes, évidemment. Bon, la roue, ça c'est une des plus grosses inventions humaines.
C'est une invention importante sous certaines latitudes, pas sous d'autres. Alors, vous parliez de changement de région, justement, pendant longtemps, on a cru que la roue avait été créée il y a 5500 ans en Mésopotamie. Oui. Et puis, on a fait des découvertes récemment dans les pays de l'Est qui montrent des représentations de chariots avec des roues. Donc, ça semble capital et en même temps, ça n'a pas été tant que ça, par exemple, en Amérique du Sud. Oui. La roue, ça peut servir à créer des chariots. Mais pour tirer des chariots, il faut des animaux de trait assez puissants. Il n'y en avait pas en Amérique du Sud. Alors, on a souvent dit c'est parce que ils étaient trop bêtes, ils n'avaient pas découvert la roue. C'est pas vrai du tout, puisque des jouets là-bas étaient équipés de roues, donc ils connaissaient la roue. Si vous allez par exemple dans des régions très désertiques, la roue, ça n'a aucun intérêt. Dans les régions désertiques, ils étaient en contact de civilisations qui connaissaient la roue, malgré tout, ils ne l'ont pas employée, parce que la roue, ça sent sable, il vaut mieux garder le dromadaire.
Alors, un mot, parce que là, il faut avancer dans le temps, évidemment. 1874, l'invention du barbelé, alors ça, c'est passionnant comme histoire, justement. C'est dans le Middle West américain?
C'est dans le Middle West américain, c'est en fait pour à la fois protéger les cultures, les grandes cultures de blé, de tout ce bétail qui vagabonde.
Entre les agriculteurs et les éleveurs,
c'était à couteau tiré, en effet. Et donc, c'est la mise au point d'un dispositif, un fil de fer tout simple, ça marche pas, ça arrête pas une vache bien déterminée, surtout quand elle est en troupeau. Mm-hmm. Une barbe, comme on dit, donc ce petit objet métallique glissé sur un fil, ça finit par partir dans un sens et dans l'autre. Donc l'idée, c'est de torsader le fil de fer barbelé.
C'est le winner.
C'est formidable et c'est l'exemple même d'une invention ambivalente puisque 50 ans plus tard, elle sera utilisée sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale avec les conséquences que l'on connaît.
Un mot très vite sur Ada Lovelace, qui est cette femme comtesse de Lovelace, qui n'avait que 19e.
On peut la considérer comme la toute première informaticienne, programmeuse en informatique, avant même que les ordinateurs se mettent à exister.
Et on pourra découvrir son parcours tout comme celui de l'inventeur Léonard de Vinci.
Évidemment.
C'est passionnant, c'est vraiment une très chouette histoire. Avec toutes ces inventions que vous publiez, donc Denis Gutleben, aux éditions d'Uno, donc de la maîtrise du feu à l'immortalité. Merci beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi. Et on termine avec l'agenda scientifique du week-end, Sophie Becherel.
Pour être bien clair, revenons juste sur l'exposition L'évolution, puisqu'elle s'appuie quand même sur un livre qui est encore disponible donc aux éditions Xavier Barral. Oui. Cette exposition a donc lieu jusqu'au 29 septembre 2019.
Mais quand même.
Et enfin, Jean-Baptiste de Panafu avait aussi écrit à l'époque une version pour les enfants chez Gallimard Jeunesse, qui est tout à fait intéressante autour de ces squelettes.
Bien, alors l'agenda.
Alors maintenant, l'agenda, on va au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre pour voir l'exposition Le génie de la nature, qui se poursuit jusqu'au mois de mars. Alors là-bas aussi, il y a quelques squelettes, des animaux naturalisés, des photographies, des panneaux pour expliquer aux enfants essentiellement le biomimétisme, l'intelligence animale, les modèles familiaux ou encore les modes de communication. Et il y a des ateliers proposés en marge de cette exposition. Dimanche, pour les 6-12 ans, les sons de la savane et pour les 4-8 ans, les secrets des abeilles. À Paris, le Musée de l'Homme célèbre les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme en accueillant le photographe brésilien Sebastião Salgado. Une trentaine d'images grand format réalisées par l'artiste au cours des 40 dernières années de sa carrière. en Afghanistan, en Algérie, en Angola, en tous ces pays qu'il a évidemment parcourus et qui illustrent quelques articles de la Déclaration des droits de l'homme, le droit d'asile, la liberté de penser, la liberté de conscience ou de religion, ou encore le droit au travail. Vous savez que Salgado est un infatigable militant des droits de l'homme et qu'il porte un regard très humaniste en fait sur les hommes. Enfin, deux films, Le Temps des forêts, vous savez que c'est l'un de mes coups de cœur 2018, voilà, je vous en avais parlé
Pourquoi
ici.
Pourquoi vous en parlez?
Parce qu'on peut encore le voir, figurez-vous, à Colmar ce soir à 20h, à Aubervilliers demain à 17h30, à Nantes lundi, à la Charité-sur-Loire mercredi. Bref, regardez près de chez vous si vous pouvez voir ce grand documentaire sur nos forêts, les hommes qui les protègent, qui les exploitent. Et puis enfin, si vous êtes amateur de science-fiction, je vous conseille le dernier long-métrage de Claire Denis, un film assez spécial sur le spatial. High Life raconte en fait comment des criminels condamnés à mort sont rassemblés dans un vaisseau spatial qui flotte dans le système solaire. Ils ne reviendront jamais. Avec une Juliette Binoche, un docteur Follamour qui mène des expériences sur la reproduction, et Robert Pattinson en cosmonaute au-dessus du lot. Vous allez voir, c'est assez, ça rappelle le Solaris de Tarkovsky. Ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance qui se dégage de ce film, plus que la narration, mais c'est assez intéressant.
Il est sorti mercredi, là.
Il est sorti mercredi dernier, voilà. Et merci. Notamment le décor, les costumes rendent très bien compte du confinement.
Sophie, vous mettez toutes ces infos agenda
sur
week-end.
Le site de la Tête au Carré.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Passez un bon week-end.
Merci.